Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour une interview avec Antoine Lejeune, le fondateur et CEO de Freebie. Si tu ne connais pas Freebie, Freebie est un logiciel de facturation de comptabilité pour freelance. Mais comme Antoine va te l'expliquer tout au long de ce podcast, ce n'est pas, on va dire, un simple logiciel Excel un peu plus développé. Il y a plein d'autres fonctionnalités pour en fait rendre un outil vraiment intelligent pour les freelances, pour leur comptabilité et leur facturation. J'ai souhaité que Antoine vienne sur ce podcast pour te parler de comptabilité, parce que c'est souvent un sujet pénible pour les entrepreneurs, c'est même souvent un sujet anxiogène, tout ce qui va être administratif, comptabilité, etc. Donc Antoine va venir te parler évidemment de Freebie, donc il y a vraiment une partie passionnante d'entrepreneuriat, on va dire, pur et dur, de son propre parcours de freelance à entrepreneur, de la création de Freebie, de l'idée à la conceptualisation, il va te parler d'investissement, il va te parler de la création du projet. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu business. Il va te parler, bien entendu, de comptabilité en te partageant des bonnes pratiques et des conseils pour gérer cette comptabilité et puis essayer de se réconcilier un petit peu avec toute cette partie légale et administrative qui peut être un peu lourde au quotidien. Et bien sûr, on parlera un petit peu à la fin de son quotidien d'entrepreneur et de bien-être. Si Freebie, ça t'intéresse, je te mets les liens dans la description, puisque notamment, je suis en collaboration avec Freebie, une collaboration qui te permet d'obtenir 2 mois gratuits, si tu veux tester l'outil. Donc je te mets le lien pour bénéficier de ces 2 mois gratuits dans la barre d'infos, dans la description associée ou dans l'article de blog si tu te trouves sur le site de Bien dans ta boîte. Évidemment, transparence oblige, il s'agit d'une collaboration que j'ai avec Freebie et donc d'un lien affilié, c'est-à-dire que moi je touche également une commission si après tu prends l'abonnement, enfin c'est pas si tu prends l'abonnement, c'est tu prends l'abonnement, tu bénéficies de 2 mois gratuits et donc quand tu prends cet abonnement, moi je touche une commission, donc voilà, ça c'est la transparence, il s'agit d'un lien affilié. Maintenant, si tu t'en tamponnes du lien affilié ou que tu t'en tamponnes de l'outil, c'est pas grave parce que au-delà de parler de l'outil de Freebie en tant que tel, il va te parler de Freebie au sens large, donc c'est tout à fait passionnant de toute façon d'écouter des parcours d'entrepreneurs, de voir comment ils ont géré les difficultés qu'ils ont rencontrées, les réussites évidemment qu'ils ont rencontrées également, et puis parler de comptabilité, blablabla. Donc je vais pas parler plus longtemps. Avant de te laisser avec l'interview, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook de Bien dans ta boîte où nous sommes 600 et des brouettes entrepreneurs et futurs entrepreneurs à s'entraider et à co-construire nos réussites au quotidien. Tu peux également, si tu le souhaites, rejoindre la newsletter puisque je l'envoie uniquement 2 fois par mois et puis surtout ça te permettra d'avoir accès à tous les contenus. Sur ce, je ne vais pas parler plus longtemps et je vais te laisser avec toi. Merci de venir répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler évidemment de ton parcours, on va parler de Freebie évidemment, dont tu es le CEO. Et donc forcément, on va parler de comptabilité, de facturation, de tarifs, un bon de choses hyper importantes et un peu angoissantes pour les entrepreneurs que nous sommes. Donc tu vas nous dédramatiser tout ça. Avant qu'on commence, est-ce que déjà tu pourrais commencer par te présenter toi, ton activité et ton parcours?
Tout à fait. Salut Laura, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très cool de pouvoir échanger avec toi. Donc je m'appelle Antoine Legendre et je suis le fondateur de Freebie.me et j'ai commencé mon activité en freelance il y a maintenant 8 ans en tant que designer et je faisais un peu tout quand on commence, on se cherche un peu. Mais ensuite, je me suis vraiment spécialisé dans l'UX et dans l'UI. Et donc, je travaille pour pas mal de clients différents, des petites startups ou des clients particuliers ou même des grands groupes. Et j'ai fait aussi 2 ans chez PSA à la fin, avant de commencer Freebie. Aujourd'hui, je me suis vraiment orienté dans le product design. Donc, c'est vraiment le design au sens large, en incluant aussi le business et le marketing pour vraiment créer un produit de A à Z, le concevoir et le diffuser. C'est vraiment ça ma spécialité.
Et alors du coup, comment tu vas passer de déjà de ton statut de freelance à ton statut de fondateur? Comment va naître Freebie? Et puis est-ce que tu peux nous parler aussi un peu du processus, quoi? D'où vient cette idée? Comment tu l'as concrétisée? Parle-nous un peu de Freebie.
Bah, carrément, c'est venu d'ailleurs donc dans ma dernière expérience chez PSA, parce qu'en fait, j'ai pris une mission en 4-5e, donc du lundi au jeudi. Et ça, c'était pas du tout habituel pour moi. J'avais plus l'habitude de booker des créneaux avec des clients. Et là, en fait, avec cette grande mission, en fait, je me suis aperçu que j'avais plus que le vendredi et le soir et le week-end pour bosser sur ma compta et mon administratif. Et quand on est en régie, on peut pas répondre au téléphone, on peut pas avoir nos habitudes en free. Et du coup, je mettais tout sur le vendredi, et donc j'avais un mois de retard à chaque fois sur ma compta. Et c'était assez galère. Et en fait, c'est là que je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'un outil de gestion qui permettait de gérer toute mon activité administrative et qui soit vraiment automatisé et intelligent et qui soit pas juste un Excel dans un SaaS avec une couche de design, mais qui soit vraiment en fait un outil qui me fasse gagner du temps et pas un outil où je déplace le problème dans un Excel. Parce que j'avais mon Excel, mais j'avais un mois de retard et il fallait que j'ajoute mes virements, dès que j'en avais un, mes encaissements, mes clients, j'apporte mes devis, mes factures et tout. Et c'était assez galère de faire ça. Et ce qui m'a vraiment le plus motivé à lancer Freebie, c'est que toutes les données étaient devant nous, étaient connectables, mais il n'y avait rien qui les connectait vraiment ensemble et qui les rendait intelligentes du début et que ce soit les mêmes données du client jusqu'à la déclaration et sans avoir à avoir d'action manuelle en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a décidé à lancer Freebie. Donc à la base, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, mais vraiment mon intention de base c'était comment on fait pour avoir un outil qui permette vraiment de gérer mon activité administrative. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir sur le sujet. Et à ce moment-là, du coup, je me suis fait un prototype dans ma chambre avec la liste de mes clients, la liste de mes factures, la liste de mes devis, mes encaissements, etc. Mais en fait, je me suis aperçu très très rapidement que j'étais en train de faire justement un Excel dans un SaaS avec une couche de design, mais qu'il n'y avait pas cette automatisation dont j'avais besoin. Et en fait, je reproduisais exactement un même outil qu'un concurrent, quoi, que mes petits concurrents actuels. Et du coup, je me suis dit, comment on fait pour vraiment améliorer ce process? Et comment on fait pour automatiser ça? Et donc la première chose, c'était vraiment d'avoir les données clients. Donc typiquement aujourd'hui, quand on fait un devis à un client, il y a beaucoup de gens qui demandent encore quelle est l'adresse de facturation, quel est le nom, quel est le numéro de SIRET. Et toutes ces données, elles sont disponibles sur Internet. Et moi, ça me saoulait de devoir avoir une pop-up de 14 champs de formulaire à remplir, alors que les données étaient disponibles sur société.com, par exemple. Et donc du coup, je me suis dit, bah, comment on fait pour connecter ça et qu'on ait une recherche directement dans Freebie avec le nom d'un client, par exemple. Et c'est vraiment toutes ces choses-là qu'on a mis en place pour essayer d'automatiser un peu ça, et notamment avec la synchronisation bancaire et la déclaration automatique à l'URSSAF, ces choses qui ont vraiment changé en fait le produit grâce à ça, quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis fait mon proto, et donc ça fonctionnait bien, et j'étais content, sauf qu'en fait, c'était pas très fou. Et quand je suis directement allé prendre des entretiens individuels avec tous les freelances qui travaillent chez Peugeot le midi et le soir. Et pour leur demander des feedbacks sur ce qu'ils pensaient de ce qui était un prototype. Et à ce moment-là, ils m'ont tous dit ouais, c'est génial, étoile dans les yeux, ouais, je veux ça, mais il manque ça, ça, ça et ça. Et du coup, j'ai pris tous les retours utilisateurs, j'ai créé un gros dossier de conception, un gros dossier UX, et après, je suis allé voir un développeur pour m'associer avec lui et pour bosser ensemble sur le projet. Et c'est comme ça qu'est parti Freebie. Et du coup, et on est parti sur le développement et la conception du produit vraiment quand j'étais toujours chez Peugeot. Et donc, je travaillais dessus le soir, le week-end et le vendredi. Et au bout d'un an et demi, j'ai arrêté Peugeot pour me consacrer à temps plein à Freebie. Et on a lancé le produit officiellement, quoi, le 31 juillet 2018.
Ça marche. Donc, du coup, vous êtes deux associés sur Freebie. Enfin, maintenant, vous
Les
avez une
deux.
équipe, mais...
Donc tout à fait, ouais. On était deux à lancer le produit et aujourd'hui on est trois associés. On a une troisième
D'accord.
personne qui nous a rejoint pendant le confinement d'ailleurs.
D'accord. Ok. Et cette troisième, donc un développeur, toi et la troisième personne, quel est son métier, entre guillemets?
Lui, il a une grosse agence de SEO et
D'accord.
il nous aide sur la partie SEO marketing. Et il est plus là en mode partenaire
D'accord.
externe qui nous a aussi financé une partie du produit. Mais il est arrivé que récemment. Mais sinon, on a vraiment conçu le produit avec Guillaume, qui est notre CTO aujourd'hui, toujours sur Freebie.
C'est vachement intéressant, je trouve, parce que c'est limite, je suis en train de prendre l'idée pour mes cours de marketing en école, parce que le développement de Freebie, c'est un cas d'étude, quoi. Genre, t'es parti d'un problème que t'as vécu, t'as fait un truc un peu MVP, t'as demandé des feedbacks, tu nous as fait vraiment lean startup, quoi.
Bah, c'est clair que au final on a vraiment pris en fait ce qui change avec aujourd'hui je pense avec Freebie, c'est que je suis fondateur de Freebie et je suis designer, et en fait quand t'es fondateur designer et bah tu crées des produits avec toute la partie, avec toute l'empathie qu'il y a derrière d'un designer. Et ce qui fait notre différence aujourd'hui, c'est que nos concurrents ont été créés par des développeurs comptables et pas des designers empathiques. Ouais. Et ce qui fait que ils n'ont pas privilégié les utilisateurs, ils ont privilégié d'abord le produit. Et au final, c'est vrai que nous, d'avoir impliqué les utilisateurs dès le départ et d'avoir co-construit avec eux, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le produit est autant aimé de nos users, quoi.
Ouais, puis un truc que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, d'autant plus que c'est toi qui le dis en étant un designer, c'est que finalement, t'as eu l'intelligence au début de pas faire passer en priorité le design et de dire, ok, la priorité, c'est que mes utilisateurs, ils rencontrent des emmerdes au quotidien et que ce qui va le plus les aider... comparé à mes concurrents, c'est une partie finalement d'automatisation, la liaison qu'ils peuvent avoir avec la banque, le fait que ah, tu rentres un client, bim, ça te retrouve les trucs de société.com, etc. Et même si le truc évidemment est designé après, enfin après si j'ai bien compris, mais voilà, de partir de ça, et c'est vrai que c'est un truc, je sais pas ce que t'en penses, moi que je vois souvent chez les entrepreneurs qui débutent, et que j'ai fait, moi aussi d'ailleurs, quand j'ai commencé il y a 3 ans, c'est d'avoir passé un temps pas possible à faire un site esthétique, à moindre niveau que toi, parce que moi je suis pas designer évidemment, mais à faire des cartes de visite super esthétiques, etc., alors que c'est pas le sujet de départ, quoi. Le sujet de départ, c'est quel est le problème que rencontre ma cible et quelle solution je vais proposer, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est, il faut vraiment partir de ça, et après c'est pour ça que le design ça joue énormément, et donc ça contribue à la compréhension du produit, mais s'il répond pas déjà à un besoin hyper primordial, c'est que le design on s'en fout entre guillemets, quoi. C'est un ensemble, et encore plus si on a un bête de produit, c'est d'avoir un bête de design, c'est encore mieux, mais il faut d'abord avoir vraiment la solution qui répond à un vrai problème, quoi. Et ça c'est clair.
Et toi, je comptais poser cette question plus tard, mais je pense qu'elle est plus pertinente maintenant. Comment tu fais la transition de freelance vers freebie? Alors, j'ai compris comment tu l'avais faite, mais toi, dans ta tête, parce que tu changes quand même de statut, quoi. Tu passes de la prestation de service à de la gestion d'entreprise, quoi. Donc, j'imagine que ça génère un stress différent quand même.
C'est clair, et cette transition elle est un peu sur deux aspects. La première, c'est en fait Freebie, c'est une boîte qui a été créée totalement en autofinancement. Ça veut dire qu'à la base on n'a pas levé des fonds, j'ai fait un prêt bancaire, j'ai eu des subventions, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai bossé pendant tout le lancement à côté en freelance. Mmh. Et pour deux raisons. La première, c'est que déjà je n'avais pas d'argent. et du coup, quand on lance un produit sans argent, c'est un peu fou, mais bref, j'avais pas d'argent, donc il fallait que je me finance. Et surtout, la seconde, c'était pour comprendre aussi comment créer un produit que j'utilise au quotidien. Mmh. Et ça aussi, la différence, c'est que tous les gens, c'est pour ça qu'on n'a que des freelances aujourd'hui, c'est Freebie, c'est qu'ils utilisent tous leur outil au quotidien. Donc, ils savent exactement pourquoi ils bossent, sur quoi ils bossent et comment ils vont améliorer eux-mêmes leur quotidien grâce à l'outil et grâce à ce qu'ils vont mettre dedans. Et donc, du coup, cette première phase, c'était vraiment de trouver une stabilité financière pour pouvoir, en fait, tenir jusqu'au lancement. Parce que si j'avais complètement arrêté le freelancing, j'aurais pas du tout pu investir autant d'argent dans la boîte et j'aurais jamais pu tenir, en fait, parce qu'il y a un moment où, ok, la boîte, elle fonctionne, mais si toi, tu peux même plus avoir d'argent pour toi, pour vivre, il y a un moment, en fait, t'arrêtes ta boîte pour aller trouver un job, et donc, du coup, ça repart dans un truc où le fait de pas avoir pensé financièrement, personnellement, à ce qu'on va pouvoir juste manger et vivre, et ça, il faut aussi le prendre en compte dessus. Et donc, au final, j'ai bossé à côté pour pouvoir en fait tenir jusqu'au lancement. Et ensuite, quand je pouvais, je me suis détaché du freelancing et maintenant j'ai 1% de freelance que je continue à faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me suis concentré à 99% sur Freebie parce que c'est devenu un beaucoup trop gros pour pouvoir avoir une activité de freelance à côté. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué de faire ce changement parce que tu passes de freelance entre guillemets tout seul à gérer des freelances, gérer une équipe, trouver des financements, faire un business plan, faire de la gestion d'entreprise. C'est clair. Et c'est vrai que c'était hyper complexe aussi à faire ce switch. Mais c'est grâce à mes années de freelance que j'ai pu en fait avoir assez de compétences pour pouvoir tenir la boîte. Parce que c'est vrai que quand tu te lances et que t'as même pas fait de freelance avant, ça va être vraiment vraiment complexe et bravo à ceux qui réussissent. Mais c'est vrai que le fait d'avoir en fait baigné dans tout cet aspect mini administratif, mini comptabilité, mini CRM, mini gestion des clients, ça fait que tu le fais mais en plus gros, mais t'as déjà été préparé à ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'être en freelance pendant beaucoup d'années avant de lancer Freebie, quoi.
Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis sur l'argent, parce que pour avoir beaucoup quand même d'entrepreneurs, quasiment grande majorité de prestataires de services en coaching, je rencontre souvent ça. C'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup pour lesquels ça ne leur vient même pas à l'idée, je l'ai encore eu en coaching la semaine dernière, de faire un prêt, de demander des subventions, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment tout en autofinancement, et c'est tout à leur mérite, mais à leur honneur plutôt, si on sait pas français, je crois. Mais à la fois, bah du coup c'est dommage, parce qu'il peut aussi y avoir de la ressource à aller chercher auprès des banques, auprès de la région, etc. Et ils ont pas toujours, et moi j'ai été dans ce truc-là aussi, quand j'ai lancé ma première boîte, ça m'a même pas traversé l'esprit. C'était en mode artisanat, je fais tout moi-même, et je vais pas avoir cet état d'esprit de me dire, bah attends, je vais pas investir 10 000 euros dans un truc qui peut se péter la gueule, tu vois. Alors qu'en fait, bah il y a un moment, bon là j'enfonce une porte ouverte, mais si t'investis pas, t'as pas le retour, quoi.
Bah c'est ça, et puis si tu crois même pas en ton projet, tu veux pas y arriver. Et donc du coup, les 10 000 euros, d'avoir peur d'aller chercher 10 000 euros, c'est qu'on a peur de pas pouvoir les rembourser. Et donc du coup, c'est qu'on n'y croit pas à 10 000%, quoi. Et ça aussi, c'est ça aussi que voit un banquier, hein. Quand il vient voir un jeune qui va lui demander 10 000 euros de prêt pour lancer sa boîte, à la base, bah voilà, c'est aussi le fait de faire la démarche, d'avoir déjà construit des choses derrière, et ça valide deux choses. Mais en tout cas, ouais, faut vraiment pas négliger ça. Et y en a qui commencent d'abord par chercher des fonds, et c'est pas forcément une mauvaise idée, puisque bah, sans fonds, on peut pas forcément y arriver. Mais c'est vrai que ouais, comme j'en avais pas et que j'avais envie de lancer ce produit et qu'il fallait le lancer vite, et avoir beaucoup de cette recherche, je suis lancé là-dessus. Et en fait, la sécurité, c'est qu'au début, je travaillais chez Peugeot. Et donc, j'avais vraiment toute la semaine qui était payée. Et j'avais que le vendredi, le soir et le week-end pour bosser sur le produit. Mais donc, du coup, tous les jours où je travaillais pas en freelance, j'étais payé, entre guillemets, par Peugeot la semaine. Et donc, du coup, ça me permettait de continuer comme ça. Mais c'est vrai que, à refaire, je commencerais par mettre un peu de côté d'argent avant de me lancer sans rien, quoi.
Ouais, bien sûr. Parce que du coup, ça dure combien de temps cette période? Un an et demi, c'est ça? Où t'es à la fois chez Peugeot et où tu développes Freebie?
Ouais, en gros, on a créé la structure en mars 2017, donc une
Ok.
SAS, et ensuite, on a lancé le produit le 31 juillet 2018. Donc en fait, il y a vraiment eu 1 an et demi de développement, et rien que ça, c'était fou de lancer le projet. C'était un gros challenge, parce que voilà, on partait sans sous, complètement d'une page blanche, et donc on a mis 1 an et demi avant de sortir un premier produit où les gens pouvaient payer, quoi.
Et donc pendant 1 an et demi, si je comprends bien, tu vis, tu manges, tu dors entrepreneuriat toute la journée, quoi. T'es freelance 4 jours par semaine, et tout le reste du temps, tu bosses sur ta boîte, quoi.
Ouais, c'était assez fou et pas beaucoup dormi, on va dire, mais en tout cas, ouais, c'était exactement ça, quoi. C'était lundi, jeudi Peugeot, et le soir, la boîte et le freelancing, et ça, quoi. Donc c'était hyper complexe à gérer, mais voilà. En fait, je savais que tous les mois, je récupérais de l'argent pour continuer le projet, et c'était hyper important d'avoir cette entrée aussi derrière, quoi.
Et c'était envisageable pour toi de faire ça tout seul, sans associé, ou c'était mission impossible?
Bonne question. Bah figure-toi qu'au final, j'étais pas associé directement, et que je me suis lancé en solopreneur,
Ok.
à la base, parce que pour des raisons X ou Y, mais en gros, je suis allé voir notre CTO. À la base, je lui ai demandé de s'associer avec moi. Lui, il voulait pas, parce que financièrement, c'était pas possible, qu'il avait pas d'argent à mettre dans la boîte et qu'il cherchait un job. Et il m'a dit, par contre, le projet, ça a l'air super, donc je suis chaud pour bosser dessus. Donc moi, j'ai monté la structure tout seul, et lui, il était en freelance, et après, il nous a rejoint dans la
D'accord.
structure un peu plus tard. Mais à la base, j'étais tout seul à monter la boîte, et franchement, c'est complexe, et je le referai pas.
Ouais.
Je le referai pas, parce que c'est pas une activité de freelance, c'est vraiment une structure, une SAS. Et d'avoir en fait une seule personne qui pense en permanence au projet, même si Guillaume a été impliqué depuis le départ, comme un associé. Il a vraiment donné tout ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait, beaucoup plus que son activité de freelance. Mais en tant que solopreneur, t'as entre guillemets une personne qui réfléchit en permanence au projet. Alors que quand t'es trois associés, t'as trois personnes qui réfléchissent en permanence au
Ah ouais.
projet. Et je pense que monter une boîte avec un designer, un marketeur et un développeur, c'est juste parfait, parce que t'as trois avis, t'as trois cerveaux, t'as trois personnes qui vivent pour le projet toute la journée, et que même sous la douche, ils pensent au dev, ils pensent à leur côté market, ils pensent à leur côté design. Et du coup, bah, ils arrivent avec des nouvelles idées tout le temps en permanence, et ça fait que t'as des choix, t'es trois personnes, tu peux choisir, t'as une question, t'as deux qui sont d'accord, un pas d'accord. Enfin, et c'est beaucoup plus simple, à mon avis, enfin, j'en suis certain, de monter un projet à trois. Et j'avoue que ça a pu être des freins dans le développement de Freebie, dans, en tout cas, voilà, le lancement, le temps que ça a pris jusqu'à présent, parce que j'étais tout seul, et qu'on m'a fermé énormément de portes. Au niveau des banques, au niveau des investisseurs, au niveau des incubateurs, au niveau de tout ça, t'es solopreneur, t'es hyper mal vu, en tout cas encore jusqu'à aujourd'hui, bien que le freelancing commence à vraiment prendre de l'ampleur et donc à changer un peu la donne. Mais aujourd'hui, quand t'es solopreneur, on te ferme que des portes et des portes. Mais d'un côté, quand t'es une banque, bah t'investis sur un projet, t'as une seule personne derrière. Donc du coup, si la personne elle arrête pour X ou Y raison, le projet s'arrête. Quand t'es trois, et ben il y en a un qui arrête, il y en a encore deux qui sont là pour tenir le projet. Donc forcément, c'est moins risqué d'investir dans une boîte où il y a trois personnes plutôt qu'une personne, que ce soit pour l'argent, pour tout en fait.
Bien sûr.
Et donc, c'est vrai que ça m'a fermé énormément de portes, ça m'a mis beaucoup de coups durs parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en moi, parce que d'un côté, j'avais rien monté avant, donc j'avais pas fait mes preuves, et donc je pouvais pas dire bah si je peux monter la boîte tout seul. Et c'est vrai que ça m'a mis des coups durs psychologiques et d'énergie, parce que les gens qui te fermaient les portes en disant tu vas pas y arriver parce que t'es tout seul. Donc de grosses remises en question, ouais je suis tout seul, mais au final est-ce que je vais pouvoir vraiment y arriver? Si tout le monde me ferme des portes, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Et en fait c'est vrai que bah je suis pas forcément allé voir les bonnes personnes, et ils avaient beaucoup des anciennes méthodes de management en tête, c'est pas forcément des méthodes nouvelles et actuelles. Et aujourd'hui, quand t'as fait 10 ans de freelancing derrière, tu peux monter une boîte sans problème quoi. Et donc, c'est vrai que d'être solopreneur, si vous avez le choix, ceux qui nous écoutent, le faites pas forcément, et allez plutôt chercher des personnes complémentaires pour arriver à durer dans le temps en fait quoi.
Oui, il y a ça aussi, c'est qu'au-delà des banques, c'est c'est la meuf qui travaille toujours toute seule qui dit ça, mais c'est aussi une complémentarité d'intelligence. Tu vois, comme toi, quand tu dis il y a un profil créatif, il y a un profil marketing, il y a un profil tech, et donc c'est aussi trois personnes et puis trois types d'intelligence qui viennent apporter trois visions, quoi.
Clairement, c'est exactement ça, et ça change tout.
Alors justement, on parle de comptabilité. Je sais que c'est un sujet un peu pénible pour les entrepreneurs. Et comme je suis évidemment allée sur ton LinkedIn pour préparer cette interview et que j'ai vu que ton titre était docteur en phobie administrative, et ben j'ai des conseils à te demander, docteur. Comment on gère quand on est un phobique de la comptabilité? Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner?
Je vois que tu as bien fait ta recherche. Effectivement, non, c'était un terme qui parlait pas mal au final à ce qu'on fait sur Freebie. Et pour répondre à ta question, bah déjà la première, ça serait de s'équiper des bons outils.
Je dis ça comme ça.
Je dis ça juste comme ça, mais plus sérieusement, c'est juste de pas voir ça comme une contrainte, mais de voir ça vraiment comme une partie obligatoire dans sa vie de freelance ou de boîte, et qu'il faut pas juste, il faut plus s'intéresser et comprendre ce que c'est, parce que si on comprend pas ce que c'est la compta, bah on verra pas plus loin qu'un mois devant nous, et si on a tout ce qui se passe et tout ce qu'on sait que ça peut faire de la comptabilité, et ben on peut anticiper et justement voir un, deux, trois ans après si c'est bien fait. Il faut pas du tout repousser en fait le moment où on fait sa compta, où on fait ses actions. Il faut vraiment que ça fasse partie de son emploi du temps pour que pouvoir gérer une boîte. Si on gère pas l'aspect financier, c'est un peu chaud quoi. Et si on veut pas justement, et si on pousse tout le temps à quelqu'un d'autre l'aspect finance compta, et ben au final c'est pas bon, parce qu'on n'a pas forcément la bonne visibilité de ce que c'est un produit quoi.
Quelles sont, toi, les erreurs que tu vois? Parce que j'imagine que, enfin, sans que t'ailles foutre le nez dans la compta des gens, mais nécessairement, de par ton outil, les clients qui t'appellent au support client, etc., tu dois avoir passé beaucoup de cas différents. Dans ceux qui nous écoutent, il y a une très très grande majorité de freelance, notamment beaucoup d'auto-entrepreneurs, pas que, mais voilà. Est-ce qu'il y a des erreurs vraiment très fréquentes que tu vois passer chez les freelance en termes de comptabilité qu'il faut absolument qu'ils évitent de faire?
Bah ouais, c'est clair que on a beaucoup de questions au support, et c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui nous posent des questions au support client, qui pensent qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner quelque chose ou quoi sur Freebie, on se rend compte que c'est pas l'outil, mais c'est la compréhension du statut qui fait que les gens font des erreurs. Et la première erreur, c'est déjà le fait que ce soit une comptabilité. sur l'encaissement, qu'on appelle une comptabilité d'engagement, et qui est du coup notre chiffre d'affaires qui est basé sur les encaissements qu'on a et pas sur les factures qui sont produites. Donc ça, c'est la première erreur en fait, où les gens ils disent « mais je comprends pas, j'ai fait 1 000 euros de facture, pourtant j'ai 0 euro de CA sur crédit, qu'est-ce qui va pas ?» Mais donc la première erreur, c'est les gens qui se trompent entre le chiffre d'affaires hors taxe ou le chiffre d'affaires des encaissements. Et ça, c'est important de bien faire attention et bien comprendre ça. Après, en termes d'autres erreurs, ça va plus être sur des erreurs de calcul de l'acre, ils n'ont pas bien pris en compte le nombre de temps, les 3 trimestres civils, etc. Parce qu'il y a énormément de changements aussi. Donc c'est vrai qu'en tant que freelance, c'est compliqué d'être toujours à la page. Et c'est pour ça que j'ai très bien essayé de pousser des infos pour que tout le monde soit au courant de toutes les nouveautés et ce qui change. Mais principalement, ouais, c'est plus la partie hors taxe et vraiment, voilà, le fait de, il y a beaucoup aussi sur les commissions. Quand ils passent par les plateformes de mise en relation, ils pensent qu'il faut déclarer ce qu'ils ont reçu et pas ce qu'ils ont facturé. Alors que là, c'est l'inverse pour la micro-entreprise, pour les cas des mises en relation. C'est vraiment ce qu'on a facturé et pas ce qu'on a reçu comme argent. Puisque la commission qui est prise par la plateforme doit être déclarée dans son chiffre d'affaires dessus. Et ça, il y a beaucoup de gens qui oublient.
C'est vrai que, à la fois, on a peut-être une chance. Je sais pas si ça, enfin, mon point de vue, c'en est une, mais peut-être que toi, t'auras un autre avis. Mais une chance en France d'avoir une pluralité de statuts, il y a quand même moyen d'aller trouver celui qui nous convient en termes de protection juridique, etc. Je pense parce que j'ai des clients, par exemple, en Belgique, qui eux ont pas toujours la même pluralité de statuts. Et à la fois, ça complexifie aussi, parce que du coup, ça pomme un peu les gens qui voilà, alors je suis imposé au chiffre d'affaires et hors taxes et machin, etc. Et puis surtout que, on le voit quand même ces derniers temps avec une entrée massive de freelance sur le marché et qui, comme tu le disais, sont des prestataires de services sans forcément la logique d'entrepreneuriat ou de chef d'entreprise et qui du coup sont pas forcément toujours bien renseignés et à leur décharge c'est pas toujours simple quand tu connais personne pour t'aider ou que tu viens pas de ce milieu-là de comprendre un peu déjà tout ce vocabulaire qui est un peu hermétique et puis après de pas se tromper. D'où l'intérêt effectivement d'avoir un outil qui te simplifie la vie comme c'est le cas du tien. Mais j'imagine que, alors peut-être que c'est moins le cas parce que la loi s'est un peu durcie là-dessus, mais moi je me rappelle il y a quelques années qu'il y avait notamment des auto-entrepreneurs qui avaient juste même pas de compta, qui tenaient 3 fichiers Excel perdus dans un dossier. Est-ce que ça existe encore ou est-ce que quand même les auto-entrepreneurs aujourd'hui sont plus carrés qu'avant ?
Il y a plusieurs réponses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de voilà les gens ont pris conscience des obligations qu'il faut respecter, qu'il y a beaucoup plus de contrôle qu'avant aussi, mais au niveau de la compta il y a pas mal de choses qui sont faites et au final il en reste et par il y a des activités par exemple qui font encore des factures sur papier. Ça existe, de les facturer, etc. Des facturiers, de le faire. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette chose où les freelances aujourd'hui sont beaucoup, avec le digital, il y a énormément de métiers qui sont créés et beaucoup de métiers en freelance. Et quand on est dans le digital, quand on utilise des outils au quotidien dans son activité, en fait, on a aussi envie d'avoir un outil dans sa gestion admin, pour être sûr de pas faire d'erreurs et surtout d'avoir, la certitude qu'on fait les bonnes actions, quoi.
Est-ce que la fonctionnalité de Freebie qui consiste à faire la liaison avec les déclarations d'URSSAF, très très bonne fonctionnalité d'ailleurs, qui t'épargne une demi-journée d'angoisse et d'ulcère gastrique, est-ce qu'elle est pensée pour ça ? Est-ce que tu l'as vraiment, enfin tu ou vous, l'avez pensée dans ce souci de soulager une espèce de charge mentale et des erreurs évidemment, mais des freelances qui doivent déclarer leur cotisation d'URSSAF ?
C'est vrai qu'on voulait pas être un énième outil de facturation et du coup on voulait vraiment avoir un process de A à Z et offrir une expérience qui va d'un point A à un point B, en prenant vraiment tout ce que peut rencontrer un freelance pendant une mission qui réalise Donc, du coup c'était vraiment d'abord il va ajouter son client, ensuite il va créer un devis, il est sûr d'avoir les bonnes mentions sur son statut, entre le statut du client, il va le faire valider directement en ligne, son client il peut valider le devis en ligne, il reçoit une notification comme quoi il peut commencer à bosser. On lui propose un outil de time-tracking pour traquer ses heures. Il peut transformer ses heures en factures. Il peut rajouter un bouton de paiement en ligne pour se faire payer ou il se fait payer par virement. Ensuite, il se fait synchroniser son compte en banque, donc on récupère chaque mouvement, on l'associe au bon client et à la bonne facture, on l'ajoute automatiquement dans le livre des recettes, et à la fin, on lui dit « Hello, t'as gagné 3000 euros, est-ce que tu veux déclarer ?» et clique sur un bouton et ça déclare son chiffre d'affaires à l'URSSAF et c'est fini. Et en fait, c'est vraiment, c'était important pour nous d'avoir le début, donc quand il ajoute son client, à la fin, au moment où il déclare ses cotisations, et de pouvoir en fait automatiser tout le principe, le cycle de vie d'une mission d'un freelance. Et donc pour nous, la déclaration, c'était obligatoire. Parce que les gens, ils ont du mal à se connecter sur le site, ils savent pas où est-ce qu'il faut déclarer, ils savent pas quel montant faut mettre à quel endroit, et du coup, c'était grâce aussi à tous les retours et tout ce qu'on a eu, qu'on s'est aperçu que c'était vraiment une grosse demande d'avoir la déclaration automatique à l'URSSAF. Ouais.
Et ça vous demande un accord de l'URSSAF ou comment vous avez pu mettre en place des techniques comme ça?
Alors, à la base, je suis allé voir l'URSSAF pour leur proposer d'avoir ça. Ils m'ont un peu pris pour un ovni en me disant « c'est impossible, c'est compliqué, vous savez, compliqué ». Et du coup, j'ai pas eu les réponses nécessaires à faire un partenariat de base. Mm-hmm. Donc, on a créé un petit robot qui se connectait à la place d'utilisateur sur le site et qui simulait en fait l'action de l'utilisateur. Et en fonction de son cas qu'il avait lancé dans Freebie, et ben, on mettait la case au bon endroit. Mais c'est vrai que là, on est en train de terminer un partenariat avec Lacos, qui est le groupe qui gère l'URSSAF, donc encore au-dessus de l'URSSAF.
D'accord.
Et c'est un partenariat officiel qui va nous permettre en fait de se connecter automatiquement au compte comme les utilisateurs, enfin vraiment avec leur API, quoi. Et donc, d'ici quelques semaines, on aura un accès vraiment officiel avec l'URSSAF dans Freebie.
Alors justement, est-ce que tu aurais à nous partager, on va dire, les trois bonnes pratiques en matière de gestion de comptabilité avec la pratique zéro, c'est tenez une comptabilité. Ensuite, est-ce que tu aurais trois bonnes pratiques pardon, à nous partager?
Bah, je pense déjà la première, ça serait de pas repousser à demain, quoi. C'est que c'est beaucoup plus simple de gérer continuellement sa compta. Je vois la tête que tu fais, mais c'est beaucoup plus simple de configurer vraiment au jour le jour, parce que quand on doit récupérer une vingtaine, une trentaine de factures à la fin du mois, etc., c'est galère. Donc déjà la première, c'est de pas repousser à demain et de le faire dès que ça vient pour éviter de se caler un créneau par semaine ou faire vraiment que ça, quoi. Ensuite, bah, déjà, une obligation, c'est quand vous arrêtez ou quand vous gardez, c'est déjà de garder toute votre historique comptable parce que vous devez le garder pendant 10 ans. Et donc ça, c'est aussi important de le savoir quand on gère son activité de freelance. Et écoute, une troisième chose, je dirais de si vous passez pas par des outils comme par exemple Freebie, faites vraiment bien attention aux mentions obligatoires sur les factures parce que vous pouvez avoir des pénalités en fonction de chaque mention manquante ou chaque mention erronée, et quand on a un contrôle au bout de 2 ans, bah ils reprennent sur 2 ans les factures et du coup ça peut faire mal en termes d'amende, même s'il y a pas beaucoup de cas aujourd'hui qu'on peut énoncer. En tout cas, grâce et en tout cas à cause, on sait pas, mais des outils comme Freebie, maintenant ils vont pouvoir faire des contrôles en demandant l'accès à des outils de l'ouvrir des portes, et donc du coup ils vont pouvoir contrôler des centaines de milliers de personnes d'un coup beaucoup plus facilement qu'avant. Donc en tout cas, voilà, le mieux c'est de toujours tout déclarer, toujours tout bien faire dans l'ordre. Faut pas oublier que l'auto-entreprise c'est un statut où on est le moins taxé, et du coup faut pas hésiter à tout faire bien.
Oui, l'avantage aussi, à cause de Freebie et autres, effectivement, les contrôles peuvent passer par vous, enfin par vous, par vos plateformes, je veux dire. L'avantage aussi étant que tu t'évites des erreurs, mais qui sont, j'imagine, pour la plupart des erreurs d'omission, en fait, d'avoir oublié une mention, etc. L'avantage, c'est aussi que ces outils nous évitent de faire ce genre de bêtises, parce que bah la mention, je ne sais plus comment elle s'appelle, article 293B, Code général des impôts, voilà, elle sera sur la facture, et ça t'évite, par exemple, ce genre de bêtises, quoi.
Tout à fait.
Très bien. Alors, parlons un petit peu aux tarifs, parce qu'on a parlé de comptabilité, on a parlé de facturation, et puis bah, pour facturer, a priori, il faut déjà s'être mis d'accord avec soi-même sur un taux horaire ou un taux journalier, ou bref, selon notre activité, selon nos modèles de facturation. Et la définition des tarifs, ça fait là aussi partie d'un vrai bazar pour les entrepreneurs qui démarrent, et même après, parce que les tarifs, ils sont quand même souvent en discussion. Est-ce que là aussi, t'as des bonnes pratiques à nous partager, déjà de ta propre expérience, et puis de l'expérience que t'as pu récolter de tes utilisateurs?
Yes, bah déjà il y a toujours ce côté syndrome de l'imposteur, syndrome de quel prix que je vais pouvoir mettre, est-ce que je travaille assez, est-ce que ça vaut vraiment le prix que je veux, etc. Et donc, avant toute chose, c'est pas de regarder le prix que l'utilisateur va payer, mais c'est vraiment regarder pour soi le prix qu'on va avoir dans la poche, et de comprendre bien la différence entre ce qu'on facture et ce qu'on reçoit, parce qu'il y a une énorme différence, et souvent, on fait son taux journalier par rapport à ce qu'on veut récupérer, et on n'a pas du tout conscience que tout ce qui va partir, parce qu'on regarde au jour le jour et on regarde pas sur l'année complète, par exemple. Mais typiquement, quand on bosse en freelance, comme on travaille sur 220 jours travaillés dans l'année, ce qui fait qu'on prend les 5 jours par semaine, en gros, en retirant les week-ends, les congés et autres. Et donc, du coup, on travaille que 220 jours par an. Donc, déjà, on n'est pas sur les 320 qui sont officiellement dans une, enfin 330 qui sont officiellement dans une année. Donc, du coup, faut vraiment prendre ça en compte, c'est qu'on travaille que 60% de son temps, en fait. On ne travaille pas 100% de l'année à facturer, parce qu'on ne peut pas travailler tous ces jours-là à facturer. Et donc, ça fait que, au final, 130 jours qu'on va pouvoir facturer dans une année vraiment par an, quoi. Donc, c'est vraiment très, pour vraiment prendre ça en compte aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas facturer sur 12 mois, tous les jours du mois. Et donc, quand on a des charges qui sont à la hauteur de 22% maximum, pratiquement en micro-entreprise, bah déjà quand on facture 500 euros par jour, on en a déjà 110 qui sont déjà partis dans toute la partie charge du nom. Et ensuite, grâce au final à la super abattement fiscal que nous propose l'administration, d'ailleurs je sais pas si t'es au courant de ça, mais aujourd'hui pourquoi on peut pas récupérer sur nos achats, c'est qu'au final, à la fin de l'année, pour connaître nos impôts, on a un abattement fiscal de 34% sur notre chiffre d'affaires qui nous permet d'avoir le prix imposable. Ce qui nous permet du coup aussi de refléter sur nos achats. Et du coup, quand on parle de ces achats, au final, on se rend pas trop compte qu'on a forcément des achats professionnels qui vont être toujours dans notre activité. Et du coup, ces achats, ils peuvent correspondre à un certain pourcentage qu'il faut prendre en compte aussi dans son prix par jour. Mais typiquement, si on dépense 150 euros de logiciel par mois, et ben on le multiplie du coup, enfin on le divise, ben on multiplie par le nombre de mois qu'on a, et on le divise par le nombre de jours qu'on travaille, et donc on a le taux de TJM à prendre en compte sur chaque jour. Et ensuite, ben on s'aperçoit que sur un TJM qu'on a facturé à 500 euros hors taxe, ben au final on a que entre guillemets 350 dans la poche, à peu près 300 dans la poche. Et donc vraiment c'est tout ça à prendre en compte, c'est qu'il faut vraiment faire attention au moment où on facture et ce qu'on va vraiment recevoir dans la poche, en incluant toutes nos charges fixes, toutes nos charges et tous nos frais qu'on va avoir aussi dans notre activité de freelance. Et c'est vrai qu'il y a un deuxième truc, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui facturent à la journée et des gens qui facturent au forfait. Et souvent au forfait, on va dire quel est ton TJM, il va dire ah ben non j'en ai pas, je suis au forfait. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que dans tous les cas, s'il a vendu 10 jours à 5000 euros, et ben c'est qu'il est à 500 euros par jour. Et donc, du coup, faut vraiment prendre en compte que même au forfait, on a un TJM qui est minimum vital pour couvrir nos frais et pas être en perte, en fait, à la fin de l'année sur notre activité. Et donc, faut aussi prendre ça en compte, c'est que quand on vend au forfait, on vend par rapport au prix qu'on a aussi par jour. Et faut faire attention à ça quand on facture, quoi.
Alors, je vais me permettre de faire une objection. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais je vais me permettre de faire une objection parce que j'entends d'ici l'objection que certains vont avoir, parce que c'est celle qu'ils me font en coaching. Et donc, je pense que ça serait intéressant qu'ils aient une réponse. C'est « Ouais, ok, Antoine, c'est mignon, je suis d'accord avec toi, mais si, par exemple, moi, j'ai un TJM à 500 euros et j'ai tout à fait conscience que j'en ai au mieux 300 dans ma poche, et peut-être que 300 euros, ça me suffit pas par jour, mais... » L'objection, souvent, ça va être, bah ouais, mais à un moment donné, si moi j'ai besoin de 1000 euros dans ma poche, je vais pas non plus facturer 1000 euros parce que ma cible ne paiera pas. Mm-hmm. Objection. Voilà. Qu'est-ce que t'as à répondre à ceux qui te disent, bah ouais, mais bon, en gros, comment je fais, moi, si j'ai besoin de 1000 euros par jour, mais que les gens payent pas 1000 euros par jour?
Bah après, c'est aussi ses compétences. On peut pas se vendre à 1000 euros par jour quand on se lance en free ou. Quand on démarre une activité aussi, il y a aussi le fait de prendre en compte les années d'expérience derrière et d'améliorer ça. Maintenant, c'est sûr que si on veut travailler, si on veut être à 1000 euros par jour, il faudra plus se consacrer sur des types de clients qui ont cet argent et donc d'aller démarcher plutôt des grands groupes ou des sociétés de conseil plutôt que des particuliers, parce que c'est vrai qu'un particulier ne mettra pas 1000 euros dans un prestataire par jour, alors qu'une boîte comme chez Peugeot, ils le font largement. Et donc plus aller voir des grands groupes plutôt que d'aller voir des petits groupes. des petits, des particuliers, mais après, voilà, c'est, on a un TGM minimum vital, et on a un TGM auquel on se vend, et on a un TGM max qu'on voudrait aussi avoir, et en fonction des clients, ça varie, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que ça dépend complètement du client en face, quoi.
Oui, ça dépend du client en face, je suis d'accord avec toi. Ça dépend aussi, c'est vrai que là, on est dans une approche très, très mathématique du TGM qui est indispensable, surtout, comme tu disais, pour pas se retrouver à la fin de l'année, ou des fois même de plusieurs années, à se dire, merde, mais en fait, je couvre pas du tout mes charges, parce que la plupart du temps, notre entrepreneur va dire, bah, mes charges, c'est 23%, sans forcément, comme tu disais, prendre en compte le fait, bah ouais, mais il y a l'outil, il y a Freebie, il y a l'outil de je sais pas quoi, il y a l'outil de machin, et que tout ça, évidemment, c'est de la charge professionnelle. Enfin, charge financière, je veux dire, professionnelle. Et les éventuelles charges variables aussi. Bref. Et du coup, il y a aussi la question de la valeur aussi qu'on apporte aux clients et qui, ça, peut être des fois plus difficile à chiffrer quand on débute. On dit, ouais, d'accord, mais alors, déjà, j'ai identifié la valeur que j'apportais. C'est déjà pas mal. Et souvent, quand on démarre, on va se baser sur un truc un peu de calcul à l'heure parce que c'est un peu plus simple que d'estimer la valeur qu'on apporte. Mais il y a aussi, tu me dis, c'est d'accord avec moi, mais cette aspect-là, cette variable-là, qui peut permettre aussi d'augmenter les tarifs selon la valeur qu'on apporte à la cible, quoi.
Bah c'est ça dont je parlais surtout dans les années d'expérience, c'est que bah plus on a d'années d'expérience, plus on apporte de valeur à la cible, forcément qu'elle est pas du tout identique à celle qu'on apportait quand on a le premier jour de son activité de freelance. Et donc du coup, voilà, moi j'étais pas du tout au même prix qu'aujourd'hui quand j'ai commencé mon activité, et parce que j'ai une boîte derrière, que j'ai plein de trucs qui ont fait qui prennent en compte mon TGM, mais voilà, quand on se lance, on se lance sur les prix bas avec son TGM et son expérience, quoi. Et quelqu'un qui se lance en freelance après 20 ans dans une agence web, bah forcément il sera un plus gros TGM que celui qui sort d'école qui a jamais travaillé dans un milieu professionnel. Et c'est vrai que c'est compliqué de mettre un pricing, mais il y a un moment où c'est plus le client qui a envie de travailler avec telle personne, et souvent quand on doit négocier son tarif, c'est souvent les clients qu'on est allé chercher parfois, donc mais parfois faut vraiment assumer son tarif et pas forcément faire des prix. On peut faire des prix sur la longueur de la mission, ça se fait pas mal, mais il faut pas faire de prix sur la psychologie du client, parce que c'est vrai qu'on a un TGM minimum, et après la différence, c'est ça, c'est que on va pouvoir vendre plus cher à un grand groupe qu'une start-up, mais on a quand même une base qui ne pourra jamais descendre en dessous, quoi. Et ça, c'est le TGM minimum.
Ouais, qui est important pour s'assurer de vivre, qui est aussi important, je prends ma casquette un peu plus psycho, mais aussi pour estime de soi et ne pas aller se mettre dans une insécurité chronique, quoi. Alors justement, tu me parles d'acquisition de clients, j'ai une question par rapport à ça, c'est que vous avez une grosse stratégie d'inbound marketing chez Freebie, avec beaucoup de production de contenu, etc., qui vous permet, donc j'imagine, d'attirer les clients jusqu'à vous. Pourquoi vous ou tu avez fait ce choix de l'inbound marketing?
Bah c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est pour les attirer jusqu'à nous, et c'est vraiment que eux ils viennent en fait de leur volonté, qu'ils viennent découvrir Freebie, plutôt que qu'on leur pousse absolument des publicités à foison sur ça, et nous on est plus d'optique à proposer un produit et à leur dire, bah si vous voulez tester, vous testez notre produit, et si vous voulez, enfin voilà, c'est, on n'oblige personne. Et en fait ça va un peu dans toute la philosophie qu'on a sur Freebie, c'est que on a essayé de repenser le SaaS, donc repenser le service en ligne d'abonnement, en essayant de faire un produit où les gens ils achètent vraiment ce qu'ils veulent acheter. Et la problématique aujourd'hui dans le SaaS, c'est que on a un prix de base, et en fait on va vouloir tester, il faut mettre sa carte bleue pour pouvoir avoir la version d'essai, déjà ça c'est complètement aberrant, et ensuite à la fin on va avoir trois fonctionnalités pour le prix qui était annoncé de base, et on va payer 5€ de plus à chaque fois qu'on va prendre une fonctionnalité cool. Et à la fin on se retrouve avec un produit où on l'a testé et on s'est inscrit parce qu'on avait cette promesse de prix. Et on se retrouve avec un produit où, en fait, on est obligé de le prendre parce qu'on a mis toutes nos données dedans, qu'on n'avait pas vu le pricing, et que tant pis, on le prend par dépit, et voilà. Et en fait, ça arrive sur 80% des SaaS aujourd'hui, parce que, voilà, ils ont été trop pensés par des marketeurs bourrins et encore pas par des designers empathiques, mais on a vraiment voulu changer cette façon-là de voir le service en ligne. Et donc, la stratégie d'inbound, c'était hyper important pour nous, c'est que, voilà, on offre de la valeur et on est authentique avec nos utilisateurs, et pour qu'ils retrouvent la même chose en fait sur l'interface et sur comment on va les traiter derrière. Aujourd'hui, un utilisateur, quand il envoie un message sur Freebie, s'il n'a pas une réponse avant 24 heures, c'est que tout le monde est en mode pandémie, quoi. Mais c'est hyper rare, quoi. Parce que, voilà, il sait que ce prix-là, c'est le prix qu'il a vu sur le site et qu'il verra à la fin. Il sait qu'il aura jamais de prix caché, qu'on va jamais le mettre des boutons, des cases à cocher qu'on leur a coché pour lui. C'est toute cette philosophie-là. Et donc, Inbound, c'était hyper important pour nous d'avoir une stratégie de marketing qui était en adéquation avec nos valeurs. Et ce qu'on veut, c'est vraiment produire du contenu, produire des contenus qui aident les gens à gérer leur activité et qui ne soient pas obligés forcément de payer pour avoir accès à ces contenus, notamment sur notre blog, sur les réseaux sociaux et sur tous les contenus qu'on fait à côté. C'était vraiment pour en fait créer cette base et cette communauté de gens hyper sincères et avec nos valeurs, quoi. Et donc Inbound, ça correspondait parfaitement avec ce qu'on voulait faire, quoi. Et aujourd'hui, on a 99% d'inbound et on a une pub en retargeting qui permet de refaire revenir les gens qui sont déjà venus sur notre site et une vidéo d'acquisition qui tourne, mais c'est très très léger par rapport à notre acquisition et on a 99% d'inbound, quoi.
Très bien. Donc j'imagine qu'AKM, donc tu nous as parlé de votre trio d'associés, mais une équipe conséquente, parce que, alors certainement avec des freelances aussi, mais parce que inbound marketing, je sais ce que c'est, ça prend beaucoup de temps. Donc j'imagine que pour faire toute cette production de contenu, plus support client, plus blablabla, il doit y avoir du monde autour de vous trois.
Ouais, on a une petite équipe sympa, c'est vrai, et ça bouge pas mal, mais on est de plus en plus, et c'est vraiment cool. Et juste pour rebondir sur l'inbound, ce qu'on a parlé juste avant, c'est que ce qu'on veut vraiment, c'est créer une base solide, et en fait, on veut pas faire un pic en un an, et après avoir énormément de déceptions de gens, et faire 1000 inscriptions, alors des gens que ça correspond pas, etc., mais on veut vraiment que les gens qui soient là, ça soit les gens qui restent longtemps, et en fait, cette stratégie d'inbound, ça permet de construire vraiment des fondations, limite en l'analogie de béton armé, quoi. C'est vraiment ça reste là, alors que de l'acquisition en social ads et tout, c'est que ça fait un pic d'un coup, mais au final les gens ils sont hyper éphémères et c'est hyper volatile la façon dont ils apprécient un produit qu'ils sont venus par rapport à une pub, et d'avoir cette côté inbound, ça nous permet vraiment de, voilà, de construire cette base et cette communauté plutôt que de construire de juste faire de la vente, quoi. Et ça c'était aussi important pour nous pour que ça dure dans le temps, et donc pour mettre tout ça en place, aujourd'hui on est pratiquement une dizaine sur Freebie, et donc on a deux personnes qui s'occupent de notre support, on a deux personnes qui s'occupent de nos réseaux sociaux, on a Alan qui est psychologue ergonome et qui s'occupe de toute la partie research, donc toute la partie recherche utilisateur sur Freebie, qui fait passer les entretiens, qui vient de finir un rapport de 30 entretiens quali, qu'on a tout retranscrit à la main, on a fait des analyses lexicométriques de tout ce qui s'était dit, on a vraiment fait un taf monstrueux qu'on vient de terminer à l'instant. On a trois développeurs et voilà, on a une personne qui nous aide sur la finance. Et voilà, donc on est une petite équipe et ça bouge pas mal, surtout en fonction des besoins, parce que c'est pour ça que je vois associer avec des free, c'est que bah là on a sorti l'application mobile de Freebie, et bah pour pas que nos devs ils soient impactés par cette nouvelle feature, on a pris deux nouveaux développeurs pendant 3 mois, et pendant 3 mois on a bossé à fond sur l'app, et donc du coup hop, ils sont venus 3 mois, ils sont repartis, et ce qui nous permet de bien maîtriser le budget et de vraiment prendre des freelances quand on en a besoin, et que tout le monde travaille à fond, et donc ça c'est fait partie.
Très bien. Alors j'aimerais, pour qu'on termine ce podcast, évidemment parler un peu de bien-être au travail, forcément, et donc de parler déjà un peu de toi en tant qu'entrepreneur. La première question, c'est à quoi ça ressemble la vie d'un CEO au quotidien? Qu'est-ce que tu fais de tes journées?
Je pourrais même pas te dire. Non, mais c'est ce qui est assez cool et ce que j'apprécie énormément là-dedans, et c'était pareil en freelance, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et je commence jamais à la même heure, je termine jamais à la même heure, je déjeune jamais à la même heure. Enfin, c'est vraiment hyper varié et c'est ça qui me plaît dans ce métier-là, c'est que c'était toujours tous les jours, c'est une journée totalement différente. Et donc j'ai pas de routine aujourd'hui et c'est énormément de tout le temps et ça c'est aussi compliqué quand on est solopreneur comme ça, c'est que pendant un bon nombre d'années on s'occupe de tout. Et du coup, ça, voilà, niveau juridique, admin, compta, moi, c'est moi qui m'occupe encore du design, donc tous les éléments graphiques, du logo à l'interface, c'est moi qui m'en suis occupé, je m'occupe, donc c'est vrai que j'ai des journées qui sont assez segmentées de plein de choses, quoi.
Et comment t'arrives à gérer ta vie personnelle, en fait, dans un agenda qui change tout le temps et qui a l'air bien rempli, quoi?
Mais pas trop.
Voilà, j'ai réglé le
J'avoue
problème.
que j'ai enlevé ça pour me laisser du temps sur ma
Ok.
boîte. Non, mais c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai pas beaucoup de vie perso. C'est parce que c'est voilà, c'est une grosse boîte. Encore une fois, c'est
Bien sûr.
solopreneur, c'est l'autofinancement, c'est toute ma vie qui est dedans. Et donc, j'ai pas beaucoup de limites entre ma vie perso et ma vie pro, mais c'est ultra volontaire. Et c'est juste que voilà, pour l'instant, je peux pas me le permettre. Et après, je le ferai. Mais en tout cas, voilà, je sais en fait me poser quand il faut me poser. Et c'est pour ça que je vais pas forcément avoir mes week-ends dessus. Mais si un lundi, je peux plus bosser mentalement, et ben, je vais pas bosser quoi. Et c'est
Okay.
vrai que ça, c'est plus que je connais mes limites et je sais quand m'arrêter. Et c'est vrai que une des raisons pour laquelle ça se passe bien, c'est que je dors pas mal.
Ok. Ah, justement, tu anticipes un petit peu ma question d'après, c'était comment ça s'intègre un peu tes habitudes bien-être dans tout ça, parce que tu es quand même sur une entreprise qui, j'imagine, te demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Comme tu l'as mentionné au début, beaucoup de nouvelles compétences, parce qu'il y avait la compétence de CEO, mais évidemment de manager des équipes, etc., etc. Donc, tu nous as dit que tu dormais, enfin, beaucoup, suffisamment. En tout
Suffisamment.
cas, est-ce que, comment t'arrives à intégrer au niveau sport, alimentation, bref, comment tu t'occupes de toi, en fait, au milieu de tout ça?
Ouais. Bah, c'est vrai que c'est ça que je voulais dire en disant beaucoup, c'est que je dors suffisamment, c'est que je dors toujours ce dont j'ai besoin pour la journée d'après, quoi. Et en fait, je vais préférer me lever tôt plutôt que me coucher tard. Enfin, je vais vraiment privilégier le sommeil et que, voilà, si je vais toujours. Enfin, avoir ça, parce que je pense que si on n'a pas assez de sommeil, on peut pas y arriver. Bosser, enfin, dormir 4 heures par nuit, personnellement, je connais pas beaucoup de gens qui le font et pendant 20 ans, 25 ans, sans s'arrêter, quoi. C'est hyper complexe. Et je pense que si on arrive à assez dormir, on peut tenir toute la semaine, on peut tenir tout ça. C'est vrai que là-dessus, je fais vraiment attention à ça, à prendre les heures qu'il faut et voilà, quitte à continuer demain, mais éviter de. Parce que si on prend 2 heures de plus, parfois, on peut niquer une semaine entière. Donc, il faut éviter de pousser trop loin et de vraiment connaître ses limites là-dessus. Après, j'avoue qu'en termes d'alimentation, c'est pas la folie. Bah, notamment entre guillemets à cause de mon activité, mais comme j'ai jamais d'heure précise de dîner, j'ai pas beaucoup de temps pour dîner, je prends pas aussi beaucoup le temps de me faire des bêtes de plat et tout. C'est vrai que j'ai pas une extrême alimentation hyper hyper au top, mais en tout cas c'est voilà, j'essaie de faire comme je peux en fonction du.
Très bien. Après, il y a, j'imagine, peut-être des choses, tu vois, qu'on peut immiscer, sortir une station de métro avant, ou bref, des trucs comme ça qui font qu'effectivement, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, même si on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie de prendre le temps de faire 1 heure, 2 heures de sport par jour, en tout cas par semaine, on peut introduire de quoi bouger un petit peu, hors confinement, évidemment. Enfin, en
Bah
confinement
oui,
aussi, il faut
clairement.
bouger, ceci dit,
Bah non, c'est clair, c'est important, mais voilà. C'est pareil, c'est aussi quand j'aurai plus de temps après, je m'y remettrai sûrement un peu plus.
C'est un vrai challenge pour les entrepreneurs. Bon, en même temps, je dis ça, c'est mon travail au quotidien, mais c'est qu'il y a toujours cet équilibre à trouver, et surtout pour des entrepreneurs comme toi qui sont vraiment dans des grosses périodes de lancement ou de croissance, etc. Bah, souvent, toutes les problématiques bien-être vont un peu passer au second plan parce qu'on se dit, je m'occuperai de ça quand j'aurai des sous, je m'occuperai de ça quand j'aurai recruté l'équipe, je m'occuperai de ça, gna, gna, gna. Et je pense qu'on sait tous, au fond, que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Donc, c'est tout un challenge de trouver le juste milieu entre, ben voilà, il faut que j'atteigne mes objectifs et que j'avance dans mon projet et à la fois que j'ai du temps pour moi. Mais c'est pas simple, clairement.
Non, j'ai clairement, et surtout que voilà, moi j'aime pas mal les sports de glisse
Ah
et
oui.
voilà, on peut pas en faire tous les jours et donc voilà.
Très bien. Quelles sont les plus grosses difficultés, peut-être même les échecs que tu as rencontrés depuis que tu as ton compte?
C'est les plus grosses difficultés, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment la partie solopreneur quoi, parce que on est vraiment pas considéré pareil par rapport à tout ce qu'on peut croiser tous les jours. La partie financière, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Il faut vraiment qu'on laisse un peu de côté au début. Puis quand je me suis lancé, c'était un peu c'est bon, je vais lever des fonds et on verra. Alors que, enfin, j'étais pas du tout dans la même philosophie, la même optique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu contre les levées de fonds, etc. Donc c'est un peu complètement changé.
Pourquoi t'es
Mais
contre
du
les levées de
coup,
fonds?
Je pense que, en fait, lever des fonds tant qu'on n'a pas construit un produit et qu'on n'a pas des utilisateurs qui sont dessus, qui fonctionnent, c'est un peu du vent parce que tu peux lever des fonds sur un PowerPoint et du coup c'est un peu aberrant, c'est que si tu présentes bien à l'oral ton produit, bah t'as plus de chances de lever des fonds que de celui qui présente pas mais qui a un putain de produit. Et c'est vrai que bah il y a toute cette presse, les médias qui disent c'est bon, tu lances une startup, tu lèves des fonds, c'est fini, c'est fait, c'est ancré, c'est acté. Mais il y a toute cette réalité qui est assez différente. Et quand t'es jeune, que t'es solopreneur, que t'as un produit qui est pas encore lancé, que t'as 300 bêta-testeurs dessus et que tu vas chercher des sous, mais tout le monde te ferme des portes en fait parce que t'as pas du tout réuni tout ce qui va avec pour lever des fonds. Et en fait, je pense que, et donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Au début, c'est freebie, c'est que moi je me suis concentré sur le produit. Après, je suis allé chercher des fonds quand ils allaient bientôt sortir. Et quand ils allaient bientôt sortir, bah on me répondait, bah reviens nous voir dans 6 mois quoi. Ça a l'air super, mais tu l'as pas sorti ton produit en fait, tu vois. J'ai dit, mais les gars, en fait, j'ai besoin de ces sous là pour lancer le produit. Ouais, mais reviens dans 6 mois, etc. Et donc j'ai perdu 6 mois ou 7, 8 mois de où je faisais plus que ça, où c'était n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit non, bah je vais d'abord me concentrer sur le produit, sur les utilisateurs, sur le nombre de gens, que les gens qui vraiment le produit, et j'irai chercher des sous plus tard. Et au final, j'ai arrêté de chercher des sous. Et donc pourquoi j'aime pas ça, c'est que ça peut changer complètement la donne, et qu'en fait, le fait de pas avoir de sous, ça m'a fait faire des choix, et ça m'a pris des skills que je n'aurais jamais pris avec ces sous. Et quand tu as 1 million de budget ou quand tu as 10 000 euros, tu fais pas du tout les mêmes investissements et t'es assez radin au départ, et c'est bien d'être radin dans sa boîte parce que tu peux vite dépenser beaucoup d'argent en pas grand-chose. Et je pense que voilà, faut d'abord valider, répondre à un problème, créer un vrai besoin des utilisateurs et ensuite plutôt aller chercher des sous, mais pas avec n'importe qui et qu'il n'y ait pas n'importe qui dans ta boîte derrière, quoi.
Et
Parce que,
alors,
voilà, c'est trop compliqué de trouver des gens qui sont à la même valeur que toi. Voilà, aujourd'hui, on a trouvé une personne qui a mis de l'argent dans Freebie parce que le mec, enfin, c'est un super entrepreneur, il a 30 ans, il investit son propre argent qu'il a gagné et il croit en moi et en projet. Et c'est pas un mec de 70 ans qui a fait 20 ans chez Total en se faisant virer avec un gros chèque et qui sait pas quoi faire de son argent et qui veut défiscaliser. Et du coup, ça, c'est complètement différent. Donc, lever des fonds avec les bonnes personnes, oui, mais avec les bonnes personnes, quoi.
Et alors, à l'inverse, à tes yeux, quelles ont été tes plus grandes réussites?
Déjà de lancer le produit, je pense que c'est une grosse réussite parce qu'on est parti sur 1 an et demi de développement dans l'inconnu total, en partant d'une page blanche avec 10 000 euros sur le compte. Et du coup, c'était vraiment voilà, de lancer le produit après 1 an et demi. Et ça, c'était une grosse, grosse réussite sur Freebie. Et aujourd'hui, c'est que bah, on a des milliers d'entrepreneurs qu'on aide au quotidien et qui nous font confiance et qui nous envoient des mots d'amour pour nous remercier du produit. Donc, c'en est une deuxième, de les sortir de la galère au quotidien, quoi.
Ouais, c'est clair. Je suis en train de me dire que le jour où je vais monter mon équipe de coach et thérapeute, il faut qu'on mette Freebie quelque part dans
Voilà.
l'activité thérapeutique parce qu'il y a vraiment des... Je sais pas si on
Un
dirait faux.
passage obligatoire.
Non, mais c'est vrai que c'est vraiment une source de stress super importante, hein, tout ce qui est comptabilité administrative, juridique, etc. Et même sans aller à des cas de phobie administrative, mais en tout cas, générateur de stress et d'anxiété, c'est certain, oui.
C'est vrai qu'il y a une utilisatrice qui nous a envoyé un message, et là, on était hyper contents, elle nous a dit, merci Freebie, je vous suis depuis 1 an, et je me suis lancé en freelance grâce à vous, parce que je me suis vraiment aperçu que l'administratif, c'était pas si compliqué. Et genre, ça, c'est merci, quoi, c'est genre le message qui a refait de votre clan, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est dommage quand tu te dis, et à la fois je le comprends, que ça peut même être un frein à se lancer parce que tu te retrouves face à une montagne de trucs et tu te dis, oh putain, le bazar, il y a des statuts partout, il y a de l'imposition, je comprends rien. Et je comprends tout à fait que ça puisse être, moi j'ai la chance de vivre une famille d'entrepreneurs, donc même si c'est un truc qui m'inquiétait, je savais que j'étais épaulée, que j'avais des gens à qui poser les questions. Mais c'est vrai que quand t'es tout seul, que t'y connais rien et que t'as pas forcément des gens pour te renseigner, c'est hyper anxiogène et ça me rend triste et à la fois je peux comprendre qu'il y ait des gens que carrément ça empêche de se lancer, quoi.
Bah oui, c'est clair.
Bon, bah maintenant ils auront Freebie.
Peut-être.
Peut-être. La traditionnelle question de fin, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux?
Je pense que le conseil ultime, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. et d'être vraiment passionné par son produit et son projet, quoi. Parce que on mange son projet, on vit son projet, on dort avec son projet, on fait tout avec son projet. Et donc du coup, c'est tellement les montagnes russes émotionnelles toute la journée et toutes les semaines que si t'es pas passionné par le tool, c'est que ça sert à rien de le lancer. Ou si t'es pas passionné par le sujet, faut vraiment être passionné pour être heureux. Et surtout d'oser et de pas avoir peur justement de l'échec et de foncer quand on a des intuitions, parce que en tant que fondateur, elles sont souvent bonnes, même si il faut toujours les confronter aux utilisateurs. En tout cas, il faut pas hésiter à tester des choses pour mieux se relancer si on n'a pas réussi, quoi.
Merci beaucoup Antoine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine cet épisode?
Bah écoute, je ne vois pas. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était très agréable de discuter avec toi.
Bah merci beaucoup d'être venu et j'espère que ça aura soulagé quelques angoisses à nos auditeurs et auditrices.
Carrément.
Voilà pour cette interview avec Antoine de Freebie. Je suis très contente qu'Antoine ait pris le temps et accepté de prendre le temps de nous partager tous ses conseils. C'est moi-même un outil qui m'a vraiment sincèrement aidée dans mon quotidien d'entrepreneur. Comme tu le sais, je ne parle jamais. Je ne parle jamais d'outils ni de quoi que ce soit sur Bien dans ta boîte. Mais en l'occurrence, quand on a affaire à des entrepreneurs talentueux, gentils, empathiques et qui créent des outils qui fonctionnent bien et qui nous aident dans notre quotidien, je suis très contente de pouvoir te le présenter et peut-être te faire découvrir leur travail chez Freebie sur le podcast de Bien dans ta boîte. Quoi qu'il en soit, j'espère que peut-être ça t'a un tout petit peu réconcilié avec la comptabilité et l'administratif, ou en tout cas tout du moins que tu auras appris des choses et que tu as passé un bon moment. Je te retrouve très très vite sur le groupe privé Facebook et puis évidemment dans un prochain épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.